RCF.
Et à 18h10, nous retrouvons le 18-19 régional Jean-Pierre Benoît, Alexis Claudretz.
Bonsoir à tous, le magazine régional de 18h10 à 19h avec RCF Cœur de Champagne et RCF Reims-Ardennes. Bonsoir Alexis.
Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à toutes et à tous.
Avec bien évidemment le mercredi, Fernand Tavares qui est avec nous. On imagine Fernand que vous avez suivi les débats à l'Assemblée nationale.
Oh oui, bonsoir à tous tout d'abord, et pour vous dire que malheureusement encore cette semaine, ce ne sont pas des nouvelles et des propos très optimistes, mais c'est l'actualité.
On vous retrouve dans une poignée de secondes pour faire un peu le teasing de ce que vous allez dire. Alexis, il y a beaucoup de choses dans notre émission.
Effectivement, évidemment, comme tous les mercredis, on retrouvera Robert Reverger pour qu'il nous parle d'un mot en particulier. Ce soir, on reviendra sur le mot immigration. C'est dans l'actualité, bien évidemment.
Oui, puisque le Conseil constitutionnel se prononce demain.
Et puis, nous serons également avec Dimitri Houdin, adjoint au maire de Reims, qui présentera ses vœux, notamment en charge des relations internationales.
Et puis, nous reviendrons également sur l'actualité avec Hervé Cos qui devrait nous rejoindre.
Il est dans les escaliers.
Il va nous rejoindre. Et puis, nous évoquerons aussi, et on va le faire tout de suite d'ailleurs, les vœux interreligieux qui ont eu lieu hier à 17h. C'était à l'hôtel de ville de Reims, avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort pour l'Église catholique, mais aussi l'Église protestantes unies, avec les musulmans, les représentants de la religion juive, etc. Donc, c'était un rendez-vous très important. D'ailleurs, on en reparlera avec Monseigneur Véteux en direct vendredi matin.
Jean-Pierre, puisque l'on est sur les annonces d'actualité, hier, effectivement, vous étiez depuis l'hôtel de ville à ces vœux interreligieux. L'actualité qui est au niveau national, mais qui aussi se traduit au niveau local, depuis hier, et notamment depuis aujourd'hui, mais dont on était au courant hier soir, ce sont les agriculteurs qui bloquent les routes, et notamment depuis 13h ce mercredi, entre Charleville-Mézières et Reims, la 34 est coupée dans les deux sens à hauteur de l'aire de Voynic. La circulation est fortement ralentie, des déviations ont été mises en place par la préfecture. Mais les agriculteurs sont aussi allés bloquer des routes, j'allais dire secondaires, notamment au niveau du rond-point d'Assis-Romance, etc. Donc la préfecture recommande, dans la mesure du possible, d'éviter de se déplacer si l'on peut reporter ses déplacements, de privilégier le télétravail, et puis bien évidemment, si l'on ne peut pas faire autrement que d'emprunter son véhicule, eh bien que de faire attention à respecter toutes les mesures de sécurité nécessaires, et surtout d'anticiper sur le temps de trajet qui peut être doublé, voire triplé parfois.
Alors justement, Fernand, en deux minutes, hein, c'est le teasing du soir. La situation, le contexte ce soir, c'est plusieurs points et bien sûr le premier point, les agriculteurs.
Alors évidemment, on en a parlé hier à l'Assemblée nationale et encore aujourd'hui à l'Assemblée nationale et au Sénat, avec quand même plusieurs points d'interrogation. On a le sentiment qu'il ne s'agit pas de résoudre tous les problèmes du jour au lendemain. Néanmoins, les questions sont posées à la fois sur le plan intérieur, mais aussi sur le plan européen, ce qui ne surprendra personne. On vient de parler des problèmes d'occupation des routes par les agriculteurs. Ça monte, à tel point que ce soir, à Paris, on se demande s'ils ne vont pas arriver aux portes de Paris pour faire une pression maximale.
Crise des pêcheurs également.
Alors oui, mais ce qui m'a étonné dans l'affaire des agriculteurs, c'est que dans les questions au gouvernement, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, le Premier ministre qui était présent a laissé la main à pratiquement 99% à son ministre de l'Agriculture, qui a répondu à au moins une vingtaine de questions en tout. La crise des pêcheurs, évidemment, dans le golfe de Gascogne, a été à la une de l'actualité. C'est vraiment, on tire la chasse d'eau, là. Il y a l'agriculture, il y a la pêche, et puis vous l'avez dit tout à l'heure, dans un contexte encore particulier, parce que il y a eu aussi quelques manifestations contre la loi sur l'immigration qui a été votée à l'Assemblée nationale par une certaine opposition. Et demain, le Conseil constitutionnel, normalement, doit dire si cette loi est modifié ou ne l'est pas. Imaginons que demain, il y ait des modifications. À mon avis, il y en aura. Ça va rajouter au problème qu'on vient d'évoquer.
Et puis, il y a une proposition de loi, on y reviendra, sur la protection des élus, mais aussi, par exemple, des pompiers, de la police, de ceux qui interviennent dans les quartiers.
Alors, ce qu'on a appris cet après-midi, effectivement, c'est que la protection des élus était aussi à la une de l'actualité. Mais ce qu'on a découvert, entre guillemets, c'est que, par exemple, les pompiers qui vont au secours des gens sont agressés à 70% Vous vous rendez compte? Alors qu'ils viennent au secours de ceux qui les agressent.
Pendant qu'on évoque cette actualité, on retrouvera Hervé Causse un petit peu plus tard. Il faut signaler que nous aurons comme invité la semaine prochaine deux matinales spéciales en direct. L'une avec le recteur Vincent Stanek, ça sera mercredi 31 janvier. Et puis le 1er février, en direct, ce sera à 7h du matin, nous aurons le maire de Reims, Arnaud Robinet, qui sera avec nous. Voilà, Alexis, ce qu'on peut dire.
Eh bien, merci Jean-Pierre pour toutes ces informations. Mais vous le savez, le mercredi, il y a un ordre logique que l'on essaye de respecter. Et notamment un chroniqueur qui vous attend, qui attend que vous lui donniez la parole. Jean-Pierre, sans surprise, avec qui êtes-vous ce soir ?
Tout de suite, on retrouve Robert Revercher qui est avec nous. Alors, c'est vrai que vous choisissez un mot. Et en un mot, aujourd'hui, en pleine actualité, Fernand Tavares, il revient régulièrement. C'est le mot, bien sûr, immigration, notre mot d'aujourd'hui.
Oui, mais je tiens à préciser tout de suite que je ne vais absolument pas piétiner les plates-bandes de Fernand Tavares. Alors, c'est un mot effectivement d'une brûlante actualité depuis quelques mois. Un mot qui a entraîné bien des polémiques, un mot qui a fait couler beaucoup d'encre et, à mon avis, qui risque d'en faire couler encore pas mal, donc le mot immigration.
Alors, quelle est l'origine d'ailleurs de ce mot?
Eh bien, ce mot est apparu à la fin du XVIIIe siècle, en même temps que le mot émigration. Ces mots sont formés du mot latin migrare, qui signifiait changer de lieu, changer de résidence, mais le mot migration tout court était apparu, lui, dès la fin du XVIe siècle.
Quand on parle de migration et d'émigration, à l'époque, hein, et à l'époque bien sûr, à quoi s'appliquait ce mot?
Eh bien, il se disait alors des Français qui émigraient pour aller s'installer aux Antilles ou en Louisiane. Alors, deux siècles plus tard, il s'appliquera au déplacement forcé d'Africains vers ces régions comme esclaves et comme main-d'œuvre, mais il s'appliquait aussi aux aristocrates qui quittaient la France en période révolutionnaire.
Alors, cela dit, il faut dire que dans l'histoire, depuis des dizaines et des centaines d'années, les humains migraient depuis bien bien longtemps.
Oh oui, un petit rappel peut-être en passant, le phénomène migratoire touche depuis toujours tout ce qui existe sur Terre, voire même dans l'espace. Par exemple, les animaux migrent, les plantes migrent, et nous constations quelquefois sur nos pare-brises que, par exemple, les sables du Sahara migrent.
Alors pour ce qui est des humains, de quand date leur première vague migratoire ?
Eh bien, les premiers hommes du genre Homo habilis quittent l'Afrique il y a environ 3 millions d'années. Alors, ces migrations dureront de manière continue pendant des centaines de milliers d'années.
Ont-ils migré loin de leur continent d'origine ?
Eh bien, on a retrouvé des humains apparentés à Homo erectus, donc un peu plus tard, qui vivaient voilà 2 millions d'années. On en a retrouvé en Géorgie, en Indonésie et même en Espagne.
Et nous en arrivons à notre ancêtre beaucoup plus proche de nous, le fameux Homo sapiens.
Ben oui, pour ce qui est d'Homo sapiens, lui aussi originaire d'Afrique d'ailleurs, il a migré entre 150 000 et 100 000 ans en arrière pour atteindre l'Europe autour de moins 40 000 ans et atteindre l'Amérique autour de moins 20 000 ans.
Alors pour quelles raisons ces premiers hommes ont-ils migré ?
Eh bien, ceux que l'on peut qualifier de migrants de l'époque n'avaient pas conscience d'habiter un continent et d'en sortir, bien
ce
entendu.
Ce qui d'ailleurs les différencie, il faut dire, Robert Revercher, des migrants d'aujourd'hui.
Oui, ces chasseurs-cueilleurs de la préhistoire se déplaçaient au gré des variations climatiques en suivant des troupeaux de gibier qui étaient nécessaires à leur alimentation avec en même temps la cueillette des fruits et légumes. Donc ces chasseurs-cueilleurs vont ainsi s'éloigner progressivement de leur contrée africaine d'origine et conquérir le monde.
Avaient-ils d'autres motifs de migrer en dehors de cette nécessité vitale qu'était leur alimentation ?
Oui, et qui est celle, je crois qu'il est nécessaire de le rappeler, de la quasi-totalité des migrants aujourd'hui d'ailleurs.
Alors ces premiers hommes dans l'histoire, puisque nous revenons en arrière avec vous, avaient-ils d'autres raisons de se déplacer, peut-être moins impérieuses que la nécessité de trouver à se nourrir ?
Eh bien oui, déjà à l'époque, la curiosité, une qualité particulièrement humaine, mais aussi un peu animale, bien sûr, les poussait à dépasser sans cesse leurs horizons.
Ce qui est toujours notre cas d'ailleurs aujourd'hui, on peut
oui,
le dire.
Oui, bien sûr, ce sont des... Mais aujourd'hui, ce sont les migrants temporaires que l'on n'appelle pas migrants, mais touristes qui, à leur départ, émigrent pour leur plaisir, mais à leur retour, n'immigrent pas.
Alors, pour en revenir à l'actualité, au monde d'aujourd'hui, que peut-on dire des phénomènes d'émigration et donc, par conséquent, d'immigration aujourd'hui ?
Eh bien, on peut citer un chiffre. En 2023, L'Europe a connu un important rebond migratoire de 67% par rapport à 2022, ce qui pose évidemment toujours plus de problèmes. Mais la réaction est la même dans la plupart des pays du monde, des pays dits riches, qui veulent traquer l'immigration clandestine et choisir leurs immigrés en fonction de leurs besoins économiques, un peu comme si ces pays avaient honte de ce tri. Ils enlèvent les préfixes et préfèrent parler aujourd'hui de flux migratoires.
Alors, ce qui veut dire, puisque dans cette émission on parle des mots, que effectivement les mots sont révélateurs aussi.
Oui, ils sont révélateurs, ils peuvent même être cruels, mais il faut bien reconnaître qu'il est très difficile de rendre compatibles des intérêts qui s'affrontent. D'un côté, ceux des habitants des pays d'émigration, et de l'autre côté, on pourrait presque dire en face, ceux des habitants des pays d'immigration qui sont dits pays d'accueil. Mais alors, évidemment, une question cruciale se pose. Qu'est-ce que cet accueil ?
Alors, en conclusion, Robert, pour cette émission aujourd'hui ?
Eh bien, en conclusion, je reprendrai la question que pose le journal Libération d'hier. Que faire pour que les immigrés indispensables à notre économie ne soient plus indésirables aux yeux de 72% des Français ? Autrement dit, comment faire rimer politique et philanthropie ? J'avoue ne pas avoir les compétences pour répondre à cette double question, mais peut-être Fernand Tavares s'y répondra-t-il.
Oui, parce que ce débat et tout ce que vous venez de dire, ça va rebondir certainement à partir du 25 janvier ou peut-être même ce jour-là, lorsque le Conseil constitutionnel dira si oui ou non tous les articles qui ont été votés par une majorité à l'Assemblée nationale sont constitutionnels ou pas, ou si certains ne seront pas purement et simplement censurés, ce qui provoquera évidemment encore un autre débat.
Et pour terminer, Robert, le mot de la semaine prochaine, qui suit aussi, Fernand, est dans l'actualité.
On parlera de vaccins.
On parlera de vaccins, donc de santé. Ça aussi, ce sont des sujets qui vont revenir en force dans l'actualité et qui préoccupe beaucoup les Français, c'est-à-dire l'hôpital, c'est-à-dire les malades, etc. Ça, c'est
absolument
quelque chose qui va revenir en boomerang. Merci Robert, bonne semaine, à bientôt.
Bonne
à la
semaine
prochaine.
À vous aussi, au revoir.
Le 18-19 sur RCF.
À 18h23, nous retrouvons Hervé Kos et Fernand Tavares. Hervé qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Hervé.
Bonsoir Jean-Pierre.
Merci d'être avec nous. Fernand, on évoquait l'actualité politique avec en particulier donc les agriculteurs. Très important, il y a des manifestations, on en a parlé, des coupures en particulier de route du côté de Voynich. C'est bien ça Alexis, vous l'avez
sur
mentionné.
Sur la 34 entre Charleville-Mézières et Reims, dans les deux sens, de forts ralentissements. Des trajets habituels peuvent prendre jusqu'à 2 voire 3 fois plus de temps qu'habituellement, et même les routes secondaires, les routes annexes sont aussi bloquées, donc au maximum on essaye de reporter ces déplacements. Évidemment on donne cet exemple parce que Jean-Pierre, c'est un secret pour personne, moi je voyage pas mal du côté des Ardennes et on a des contacts qui font l'aller-retour une paire de fois, mais certainement que les agriculteurs qui rejoignent le mouvement dans l'Aube, ailleurs dans la Marne, en Haute-Marne, etc. suivent aussi ce mouvement et que d'autres axes importants sont
bien
aussi
sûr
bloqués.
Alors il faut dire, vous le disiez à l'instant Fernand, que le Premier ministre à l'Assemblée nationale avait mis en première ligne le ministre de l'Agriculture.
Ah, complètement, que ce soit à l'Assemblée ou au
comme
Sénat.
Comme on dit aujourd'hui, il se déporte un peu.
Les trois quarts des questions au gouvernement concernant la crise agricole, à ces questions, c'est le ministre de l'Agriculture qui a pris la main. Alors, est-ce que c'est volontaire ? Certainement. Est-ce que le Premier ministre se met en réserve ? Certainement aussi, parce qu'il s'apprête dans quelques jours à faire sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale.
Au fait, on n'a toujours pas de gouvernement, Fernand.
Oui, mais obligatoirement, à la une, il y aura ces problèmes agricoles. Le problème du jour, et que la question que se pose un certain nombre de Français, c'est de savoir pourquoi, de jour en jour, d'heure en heure, on laisse monter cette colère agricole dans tous les départements, à tel point que ce soir, nombreux sont ceux qui se demandent s'ils ne vont pas arriver aux portes de Paris, et qu'à un moment donné, si ce n'est pas le Premier ministre, ça sera peut-être le président de la République qui reprendra la main sur tout ça. On en est là. Ajoutez à cela les pêcheurs dans le golfe de Gascogne qui sont inquiets dans le golfe de Gascogne, parce que pendant un mois, leurs 400 navires doivent rester à quai. Et l'interrogation qu'ils ont posée aujourd'hui en disant « Bon, d'accord, on va pendant un mois, on va être au chômage technique, donc le gouvernement donne des garanties pour donner les salaires qu'il faut, etc. » Mais en même temps, ils commencent à s'interroger pour savoir si de l'étranger, les Espagnols ou ailleurs, ils ne viendront pas dans les zones de pêche qui leur sont interdites à eux.
Alors,
et ça, c'est garanti, non.
Parmi les sujets qui sont souvent évoqués de contestation, ce sont les normes qui sont imposées aux agriculteurs comme aux pêcheurs.
Alors évidemment, parce que derrière tout cela, ce qui est visé, c'est Bruxelles, c'est l'Europe, bien sûr. Et il n'y a pas que la France. On oublie de dire qu'il y a de nombreux pays européens qui montent aussi au créneau et qui protestent précisément contre ce qu'on appelle les normes européennes. J'en citerai quelques-unes. Par exemple, le foncier agricole, la garantie des emprunts, les normes qui concernent les fruits et légumes, j'en passe, et des meilleurs.
Alors justement, puisque on a notre juriste avec nous, Hervé Causse, qui est professeur d'université, professeur de droit, et qu'on peut retrouver sur son blog Direct Droit, il faut dire, Hervé Causse, qu'on n'y connaît pas grand-chose à propos de ces normes. La loi, quand même, le droit, est quand même très important, mais est-ce qu'on peut diriger uniquement un pays en demandant aux politiques de se mettre en avant avec les lois?
Alors, se mettre en avant...
Avoir une politique avec
des lois.
Avoir
essentiellement une politique législative.
Voilà,
c'est un peu ça. Alors, la tradition, c'était ça. C'était que quand on faisait une grande loi, eh bien, la grande loi durait 20 ans, 30 ans, 40 ans, et qu'elle structurait véritablement le pays, un secteur. Bon. Il y avait, je me souviens d'un médecin, le fils de Bray, qui disait, mais la loi sur l'hôpital de, je crois, 1968, elle a refondu totalement l'hôpital. Et ce professeur de médecine, de Bray, fils de l'ancien Premier ministre, qui n'était quand même pas un sot, disait, je ne comprends pas, moi, parce que maintenant, quand on fait une loi, en fait, ben, on ne voit rien qui change. On a des complications partout. Et au bout de 5 ans, ben, on fait une nouvelle loi. Autrement dit, il faut arriver à constater que l'outil législatif, appelons-le comme ça, la loi, et on peut dire pareil du règlement européen, de la directive européenne, des décrets, des arrêtés du ministre, des décrets du gouvernement, des arrêtés du ministre, il faut arriver à comprendre que le droit est un outil, mais que ce n'est pas un outil qui peut tout faire. Et que c'est un outil qui, si on l'utilise trop, finit par ne plus remplir son office. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, pour répondre à votre question, non, les gouvernements ne peuvent pas se contenter de dire « on va adopter des textes, on va faire des lois ». Ils ne peuvent pas, mais c'est ce qu'ils font en permanence. Et l'Europe a souvent été inspirée par la France. Et la France est le pays où on réglemente le plus. Et l'Europe, inspirée par la France, il y a par exemple le cas du droit de la consommation. Le droit de la consommation, il est né en France, avec une dizaine de lois qui sont devenues une cinquantaine de lois, qui sont devenues un code. Eh bien, l'Europe s'est emparée de ça. Ce n'était pas dans le traité sur la communauté initialement de 1957. Mais c'est devenu une politique juridique, la protection du consommateur. Et donc, il y a des normes. Et le pire, c'est qu'elles sont très compliquées, qu'elles doivent être transposées, donc ça fait les normes européennes plus les transpositions, et qu'en plus, elles ne durent pas. Donc on change les directives européennes aujourd'hui, très souvent, tous les 10 ans. Vous mettez 3 ans pour comprendre, 3 ans vous appliquez, 4 ans, et d'un seul coup, on vous dit, attendez, ça ne va pas. On va relancer 40 ou 50 articles.
Alors, justement, j'ouvre une parenthèse.
Le politique, là-dedans.
J'ouvre une parenthèse et je la referme. Ça va apporter de l'eau à votre moulin dans les jours et dans les semaines qui viennent. C'est que déjà vient d'être annoncé officieusement, puis presque officiellement, une loi d'orientation agricole, un projet de loi d'orientation agricole, un très grand projet de loi qui va arriver très vite. Donc ça va être une, je pense, annoncée dans les heures qui viennent pour essayer de calmer un peu la fronde agricole et prendre des engagements aussi bien pour leur salaire que pour leurs conditions de travail, que pour leurs relations avec les grandes industries. Bon, voilà, ça c'est annoncé. Dans les jours qui viennent, vous aurez encore du grain à moudre.
Alors Fernand, on aura l'occasion d'en reparler, on en reparlera avec les normes tout à l'heure avec Hervé Causse. Vous reviendrez également, Fernand, tout à l'heure sur ce qui se passe à l'Assemblée, avec les agriculteurs, avec le niveau européen. Et puis nous reparlerons bien sûr de la loi immigration demain avec le Conseil constitutionnel et puis sa barde à Mayotte, où une vague d'immigration vient d'arriver et le Premier ministre doit aller sur place.
Ça a été mis à la une cet après-midi au Sénat.
On en reparle tout à l'heure avec Hervé Causse, avec Fernand Tavares. Et pour l'instant, puisqu'il est 18h30, c'est l'heure de retrouver le journal régional avec Alexis Claudretz qui est avec nous en direct.
Avec les titres de ce mercredi 24 janvier, ce mercredi, l'hôtel de ville de Vitry-le-François a reçu les professionnels du vin de Champagne à l'occasion de la Saint-François. Portrait de Manon Herbulot, 16 ans, l'adolescente soudanaise participe au championnat du monde de tir à la carabine 10 mètres au Caire. La compétition débute aujourd'hui.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
La Saint-François a repris ses quartiers à Vitry-le-François. Ce mercredi matin, l'hôtel de ville de Vitry-le-François a reçu les professionnels du vin de Champagne à l'occasion de la Saint-François, un événement conçu par l'Association de promotion du Champagne et des Coteaux Vitria, présidé par Bertrand Trépeau, un viticulteur de Vanneau-le-Châtel.
C'est une dégustation de vin clair qu'on organise depuis 2015 et où on invite les chefs de cave et les œnologues de la Champagne. Ils viennent de toute l'appellation, des 34 000 hectares. Leur idée, c'est le seul moment où un terroir, en l'occurrence les Coteaux Vitria, ben, les invite à venir déguster les vins clairs. C'est les vins de la dernière vendange. Et on n'est pas là pour remettre des prix, pour donner des notes, ni rien, mais pour discuter entre professionnels, refaire le match de la dernière vendange, en l'occurrence 2023.
Et le match, il est bon ?
Le match n'était pas simple cette année. Globalement, pour la Champagne, ils ont eu l'honnêteté de nous le dire. C'est plutôt cette preuve de confiance qu'on a entre professionnels. Ça a été un match compliqué, notamment la dernière mi-temps, c'est-à-dire la fin de l'été jusqu'au vendange, où il y a eu des sueurs froides dans certains secteurs. C'est pas dans les Coteaux Vitria que ça a été le plus compliqué, mais je veux dire, j'en tire aucune gloire. C'est la météo qui a voulu ça. On faut être très humble. Une autre année, ce sera nous qui serons pénalisés. Mais cette année, nous, on a été plutôt dans le coin épargné et on est venu parler de tout ça en famille.
La famille va bientôt se réunir, notamment dans les Coteaux Vitria.
Alors ce sera samedi, c'est pour la Saint-Vincent des Coteaux Vitria. Elle se déroulera à Loisy cette année. La messe est à 16h30, suivie d'un vin d'honneur. Il n'y a pas de repas par contre le soir, faute de participants. On n'en avait pas assez, tout ça, ça a un coût. Ça a été un peu difficile, je pense, pour les équipes qui étaient très investies là-dedans. On est en train de payer encore les pots cassés du Covid, il faut être sincère. Mais en tout cas, pour la messe et pour le vin d'honneur, on compte sur la présence du plus grand nombre.
Des propos recueillis au micro RCF Cœur de Champagne de Gérald Gaillet. Le prochain rendez-vous des vignerons des Coteaux Vitria aura lieu à Loisy-sur-Marne, donc vous l'avez entendu, le samedi 27 janvier en l'église Saint-Juvin à 16h30 pour la Saint-Vincent de l'espace missionnaire du Pertois. On en parlait depuis le début de ce magazine régional. Les agriculteurs ardennais rejoignent le mouvement national de protestation. La 34 entre Charleville-Mézières et Reims est au ralenti dans les deux sens depuis 13h au niveau de l'aire de Voynic. Un second barrage a été mis en place au niveau du rond-point d'Assy-Romance. Le blocage devrait durer jusqu'au moins demain, jeudi soir, 18h. Pour faciliter la circulation, des déviations ont été mises en place. Et Fernand Tavares, qui est avec nous, nous dit que sur l'A4 aussi, évidemment, des blocages sont réalisés par les agriculteurs. Il y a du monde autour de cette table. Il y a Elsa, notre stagiaire à la rédaction. Il y a Fernand Tavares, il y a Hervé Causse, il y a Jean-Pierre Benoît. Dans ce journal, je vous propose un petit jeu. Je vous donne des chiffres, madame, messieurs, et puis vous essayez de trouver à quoi ça correspond. Je vous donne un premier chiffre, plus 38%.
Alors c'est une augmentation de quelque chose.
Bien pas, pas du salaire des agriculteurs, sinon ils ne seraient plus dans les rues.
C'est effectivement une augmentation, ça ne vous évoque rien, on va tenter autre chose. Si je vous dis 1 million désormais.
Alors là, est-ce que c'est quelque chose qu'on va accorder aux retraités?
Ça m'étonne. C'est pas le nombre de naissances non plus, parce que ça
non
marche
plus
pas tellement.
On parle d'argent.
C'est une actualité locale, on ne parle pas d'argent. Ah. Eh bien, 1 million, c'est le nombre de visiteurs qui se sont rendus au marché de Noël de Reims en 2023.
Formidable.
Et qui y sont restés pendant au moins une heure, soit une hausse de 38% par rapport à 2022. Un pic de fréquentation a été relevé le samedi 16 décembre avec 62 000 visiteurs recensés qui viennent de tout horizon, évidemment, de tout horizon, pardon. Ils viennent évidemment de la Champagne-Ardenne, mais aussi de régions parisiennes et même de l'étranger, avec pas mal de touristes, notamment américains et asiatiques.
Il faudra faire réagir Vincent Mansancal.
Effectivement.
Et Arnaud Robinet doit être content, là.
Absolument.
Effectivement, Vincent Mansancal, pour qui on a une pensée, puisque son beau-père, qui a été le patron du Lion de Belfort avant qu'il soit renommé le Lion, est décédé il y a quelques jours. Donc évidemment, on a toutes nos amitiés pour Vincent Mansancal, le président des Vitrines de Reims. Une page sport, certains de nos clubs locaux jouaient hier soir. Notre stagiaire Pierre-Louis nous fait un résumé.
Effectivement Alexis, notamment en football avec Troyes qui était en déplacement hier soir à Concarneau pour la 21e journée de Ligue 2. Et l'Estac s'est incliné 1-0, donc leur compteur reste bloqué à 23 unités. Troyes est donc 16e de Ligue 2 à ce jour. En volée, Chaumont a aussi perdu son match sur le parquet de Poitiers, 3-7-2, dans le cadre des 8e de finale de Coupe de France, ce qui élimine le club haut-marnais de la compétition. Enfin, un rendez-vous à donner pour ce soir. À 20h ce mercredi, les Flammes Carolo reçoivent Tarbes dans le cadre de la Ligue féminine de basket.
Merci Pierre-Louis, et tout de suite on vous présente une discipline peu connue qui fait pourtant rayonner une Ardennaise. En Coupe du Monde en carabine 10 mètres, la Sudanaise Manon Herbulot est avec les Bleus au Caire en Égypte. À seulement 16 ans, elle participe depuis aujourd'hui et jusqu'au 1er février à la Coupe du Monde en carabine 10 mètres avec l'équipe de France. La représentante du SMT Sedan qui a réalisé les quotas juniors mais aussi ceux des dames sera surclassée pour l'occasion, déjà qualifiée pour les championnats d'Europe qui se dérouleront fin février. Manon espère tirer une nouvelle fois son épingle du jeu. Manon Herbulot au micro de RCF en Sardaigne.
Eh ben effectivement, c'est la Coupe du Monde du Caire où je décolle mardi pour cette compétition. Je suis plus que prête, honnêtement. Hein, je suis vraiment dans un état d'esprit de gagne et de performance. Donc je suis prête pour cette compétition. Et voilà, c'est parti. Hein. Ça va être surtout les adversaires qui ont déjà des quotas pour les Jeux. C'est eux qui seront le plus à craindre car évidemment, ils vont au jeu, ils ont un niveau... très très élevé. Il reste quand même deux quotas à aller chercher, donc on ne sait jamais quoi. C'est une belle opportunité déjà de partir avec les dames et pouvoir concourir à l'international avec eux. Donc forcément, on va se servir de ça, notamment pour les futurs championnats d'Europe et tout ça, pour aller chercher un quota pour les Jeux.
Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Manon, qui était engagée le 15 janvier dernier à Châteauroux, a décroché son billet pour le tournoi qualificatif olympique à Rio, au Brésil. Ça sera au mois d'avril. L'occasion rêvée pour la jeune Sudanaise de valider peut-être son billet pour les Jeux Olympiques de Paris. 18h37, vous le savez, on a deux stagiaires et on les fait tous bosser. Elsa Gillot, c'est la page météo. Bonsoir Elsa.
Bonsoir Alexis, bonsoir à tous.
Quelles sont les tendances en Champagne-Ardenne pour demain jeudi?
Dans l'aube, le soleil fera partie des absents, contrairement aux nuages qui, eux, seront bien présents dans le ciel avec un thermomètre à la hausse entre 11 et 12 degrés. Dans la Marne, des nuages avec un mercure qui rétrograde entre 9 à 12 degrés au maximum. En Haute-Marne, un thermomètre qui affiche des températures entre 7 et 10 degrés, tout cela accompagné de nuages durant toute la journée. Et dans le ciel ardennais, des nuages et un peu de brouillard en soirée, le mercure sera entre 8 et 11 degrés. Demain, nous fêterons l'Emmanuel.
On aimerait bien que vous nous annonciez un petit peu de soleil quand même, Elsa. Vous n'avez pas fait beaucoup d'efforts pendant vos deux semaines de stage. Il vous reste encore quelques jours pour vous rattraper. On espère des meilleures tendances pour le week-end. Ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne-Ardenne continue sur RCF. Fernand Tavares, Hervé Kos, ils sont avec Jean-Pierre Benoît pour décrypter l'actualité.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Châlons. Charleville-Mézières.
Avec Fernand Tavares et Hervé Chabot. Fernand.
Hervé Kos.
Hervé Kos. Hervé Chabot, on le retrouvera d'ailleurs demain matin. Il sera notre invité à 7h et 8h. Il reviendra sur un certain nombre de thèmes d'actualité, en particulier l'agriculture. Vous évoquiez la situation des agriculteurs, mais on a mis en avant le fait que certaines dispositions étaient des dispositions européennes et que finalement la France peut amener quelques modifications, quelques lois, mais c'est quand même l'Europe qui a la main, non ?
C'est l'Europe qui a la main, mais avec tout ce qui se passe, non seulement en France, comme on l'a dit tout à l'heure, mais également dans d'autres pays européens où de nombreux agriculteurs montent à l'assaut, si j'ose dire, de Bruxelles, et on risque de modifier un certain nombre de choses. Alors, ce qu'on observe actuellement en France, à l'Assemblée nationale surtout, c'est à nouveau le réveil entre le Rassemblement national et les autres. Mais en plus du Rassemblement national, la France insoumise, Écologie Les Verts et le groupe socialiste sont à la manœuvre pour dire, voilà, trop d'Europe tue les agriculteurs, il faut que ça change. Dans l'immédiat, d'ailleurs, on n'y a pas encore évoqué ce qu'il faudrait d'urgence et ce qui pourrait peut-être un tout petit peu donner de baume au cœur aux agriculteurs, c'est de leur garantir que le carburant nécessaire au fonctionnement de leurs étables, de leurs tracteurs, j'en passe et des meilleurs, reste au prix du jour et non pas taxés comme pour les automobilistes ordinaires.
Alors, il faut bien dire, vous l'avez mentionné tout à l'heure, Fernand, on va demander à Hervé Cousse une petite intervention sur ce sujet-là, c'est que souvent, on évoque des transpositions de la loi européenne pour les lois françaises. C'est-à-dire que les lois, si je comprends bien, françaises, c'est une simple transposition des lois européennes, c'est ça que vous voulez dire ?
Oui, bah, la plupart du... Oui, Jean-Pierre, la plupart du droit européen... Enfin, les choses sont compliquées, hein, je simplifie. Mais l'essentiel du droit européen donne lieu à ce que l'on appelle de la transposition. Donc la règle existe dans une directive, elle existe dans un règlement. En principe, à l'école, on apprend que le règlement ne se transpose pas. Mais pour des tas de raisons... et notamment parce que parfois sont régulées des choses totalement nouvelles, on est obligé de rentrer les règles du règlement qui s'appliquent dans toute l'Europe pour toutes les personnes privées et publiques. Hein. Donc la vraie loi aujourd'hui dans l'espace européen, c'est le règlement. Donc même les règlements, on les transpose, mais les directives, elles, pour exister dans l'ordre juridique interne, doivent absolument être transposées. Donc ce qui veut dire qu'il y a la directive, qui en général fait 60 articles, avec 90 considérants, avec des annexes de 20 pages, et suivent soit un décret qui transpose, ça arrive, soit plus fréquemment une loi, et donc voilà, on va appliquer la règle comme cela. Ce qui fait que la loi, on a l'impression que c'est du droit français, mais en réalité, la substance, la force obligatoire, elle vient de la directive.
Alors,
et donc,
disait,
ça, on ne peut pas le changer.
Alors,
une fois
comme
qu'on
le disait Fernand à l'instant, si on veut changer la loi, il faut tenir compte des directives qui sont en cours. On ne peut pas aller à l'encontre de directives européennes.
Le niveau national ne peut pas changer. Ne peut pas changer alors, ce qui est adopté dans l'Union européenne.
Mais alors, il y a des tracteurs en Allemagne, il y en a aux Pays-Bas, peut-être qu'on pourrait changer une directive.
Ah non, mais on peut changer une directive. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, les directives ne font. Alors même parfois, on peut changer avec uniquement des textes qui émanent de la Commission, donc qui sont pris de façon plus rapide, des textes d'application. Mais si vous voulez. Tout ça est négocié pendant des années et des années au sein du Parlement, entre le Conseil des ministres de l'Union européenne, avec la Commission européenne. Donc vous avez ce qu'on appelle un trilogue qui fait que quand une norme est enfin adoptée, si vous voulez, vous ne pouvez pas la détricoter du jour au lendemain. Autant le Parlement français peut se réunir et en une nuit abroger n'importe quel code dans l'absolu, autant c'est pas comme ça que l'Union européenne marche.
Mais, alors, oui,
il y a le problème de la surtransposition.
Oui. Alors, il y a peut-être une observation que je peux faire, après avoir entendu les sénateurs et les députés et les ministres, c'est également le monde agricole, qui a été reçu d'ailleurs à l'Élysée et à Matignon, c'est qu'à aucun moment, ils disent la chose suivante. On ne veut plus de politique agricole commune. On ne veut plus de la PAC. Ça, les agriculteurs ne disent pas du tout cela, parce que la politique agricole commune, ils en bénéficiaient. Simplement, comme on vient de l'expliquer aujourd'hui, il va falloir qu'un certain nombre de normes tombent à l'eau ou soient remises à plat, parce que les règles doivent être les mêmes pour tous, mais ce qui se passe en France n'est peut-être pas valable pour les autres pays.
Nous sommes tous des écologistes, mais enfin, il y a une pression quand même actuellement politique peut-être du monde écologiste qui, à propos des pesticides, à propos d'un certain nombre de normes nouvelles, sont quand même des contraintes, on le comprend, hein, pour l'environnement, mais tout de même, les agriculteurs qui veulent mettre des haies, ça devient une complication pas possible. Ça veut dire qu'ils en ont marre. Enfin, je veux dire, comme disait Pompidou, arrêtez d'emmerder les Français.
Tout ça va remonter à Bruxelles. Hein. Ça va pas être franco-français. Ça va remonter à Bruxelles. Il va falloir que tous les pays réexaminent et éventuellement revoient un certain nombre de choses.
Parce
de
que
façon
ça peut
à
avoir
réformer.
Une incidence dans la campagne électorale des européennes.
Oh, ça s'est fait déjà.
Ils vont tout faire. Ils vont tout faire pour dire l'Europe finalement. C'est elle qui va débloquer la situation.
Oui, alors, autant on ne peut pas changer les règles européennes très facilement, autant en revanche, quand il y a un accord politique, on peut dire, bon, on va oublier pendant un certain temps qu'il y a des règles et on va se donner le temps. À partir du moment où on dit on les changera d'ici 2 ou 3 ans, on peut dire aux administrations, vous ne surveillez plus. Mais il y a autre chose dont le président Macron a parlé et dont 2 ou 3 personnalités ont parlé également. C'est le problème de la surtransposition. Je vous expliquais tout à l'heure que la France est un pays qui adore le droit, hein, alors qui rayonne par son droit aussi, parce qu'on a exporté notre code, on est très étudié en Amérique latine, on est très étudié au Vietnam, on est très étudié évidemment dans les pays africains, même dans les pays arabo-musulmans, comme on dit. Mais on adore des règles, et donc on surtranspose. Ça veut dire quoi, on surtranspose? C'est qu'au moment où on va transposer une directive, au lieu de mettre le minimum, nous, on met le minimum et on rajoute une couche. Donc, on met pas le minimum. Donc, on rajoute du droit là où on pourrait ne pas le faire. Si vous voulez. Il y a quand même, quand on parle, repensons au Brexit, repensons aux Anglais, à un moment donné, les parlementaires européens, continentaux, ont dit, on va beaucoup perdre avec le débat anglais, parce que les Anglais, chaque fois qu'on propose une règle, ils disent à quoi ça sert? Et qui va l'appliquer? Et quand? Est-ce qu'on est sûr que ça sera appliqué? Donc, si vous adoptez des règles qui sont pas appliquées, les continentaux réfléchissent pas comme ça. On fait des règles, et le ministre est content. Il a une loi qui porte son nom. On surtranspose. La France est sans doute le mauvais élève, en plus de l'Union européenne.
Mais sur ce débat, Fernand, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? On va peut-être déborder un tout petit peu du temps qui nous était imparti, Alexis. Parce que, au fond, là, on touche un problème de fond. C'est-à-dire que, on a le sentiment qu'en France, aujourd'hui, on a, quand même des personnes qui disent la France en tant qu'identité française, elle tend quand même à se noyer dans l'identité européenne et elle-même dans une identité mondiale. Est-ce que là, on n'est pas au cœur d'un débat de fond à propos de l'agriculture?
C'est plus qu'un débat de fond, on est même dans le tréfonds. Simplement, tout à l'heure, on a évoqué le Brexit et le gouvernement, le Premier ministre en particulier, monte au créneau régulièrement, en particulier contre le Rassemblement national, en disant « dites donc ». Vous aviez voté, vous aviez encouragé les Anglais à voter le Brexit. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous constatez en Angleterre? Le Brexit, quelles sont les conséquences? C'est dramatique pour les Britanniques, apparemment. Donc, petit à petit, le gouvernement essaye de démontrer que finalement, si jamais la France, admettons, faisait comme l'Angleterre...
Et personne ne le propose vraiment maintenant.
Non, mais il y en a toujours qui oui. Dit ça irait mieux si... Hein. Et donc on n'en est pas là, puisqu'encore je le répète, c'est que la politique agricole commune, les agriculteurs, ils sont quand même relativement attachés. Néanmoins, ça devient un problème politique, non seulement de politique française, mais de politique européenne, ça dépasse largement. Il y a aussi une chose que je voulais dire, c'est que j'ai entendu cet après-midi une remarque assez dure envers l'Ukraine. Parce que les difficultés du monde agricole aujourd'hui, certains disent, mais attendez, pour les céréales et tout, avant... On se fournissait en Ukraine. Maintenant, ça n'est plus possible. Donc, nos difficultés sur le territoire viennent aussi, en particulier, des conséquences de la crise russo-ukrainienne.
Et puis aussi le pouvoir d'achat, il faut quand même l'évoquer, parce qu'on parle de dire il faut acheter français, il faut mais souvent, ça coûte un petit peu plus cher. Et est-ce que les personnes sont prêtes, pour faire vivre l'agriculture française, à payer un peu plus que d'acheter des produits en grande surface qui viennent du bout du monde, et là, on ne voit plus, j'allais dire, en CO2, au niveau de l'environnement, ce que ça coûte.
Enfin, sauf avant d'aller aux consommateurs, les agriculteurs disent, voyez d'abord le monde industriel, les grandes laiteries, ceux qui fournissent la farine, les grandes minoteries, il faut déjà passer par là, qu'ils fassent moins de profit, un petit peu moins de profit, de façon à ce que nous, on puisse se verser un salaire mensuel. Avant d'en arriver aux consommateurs, le français d'ailleurs, il soutient, entre guillemets, il trouve que c'est sympathique et que c'est normal qu'en entendant ce dont souffrent les agriculteurs en ce moment, qui travaillent pratiquement, certains disent qu'ils travaillent pratiquement pour rien. Donc le français, le consommateur qui entend cela, dit que ça n'est pas normal. Et donc pourquoi est-ce que le consommateur doit absolument participer? Mais certainement, mais avant, il y a le monde industriel lié à l'agriculture qui doit bouger.
Sur le surcoût d'une production française, il faut également dire, et les agriculteurs s'en plaignent, que certaines règles conduisent à une situation de concurrence déloyale. Et là, c'est quand même un problème de droit et de la conception des choses en droit et de l'application du contrôle. Quand on interdit un pesticide ici, mais que par ailleurs on autorise que le produit qui vient du Brésil ait été traité avec ce pesticide, si vous voulez, on a juste une attitude absolument imbécile. Mais cette imbécilité a un nom, ça aboutit à de la distorsion de concurrence. Donc ça, c'est un problème de droit. Mais alors, je fais une transition. C'est un problème d'application du droit. Tout à l'heure, je vous disais, les ministres et le Parlement ne sont pas obligés d'adopter en permanence des lois comme ils le font. Alors, vous voyez, mais que vont faire les ministres? Mais ils vont gérer.
Les ministres doivent gérer leur administration, doivent faire marcher leur administration. Au lieu, au contraire, de recruter en permanence, de créer des agences en permanence, d'augmenter les fonds publics, ils doivent traquer là où ça ne marche pas, restructurer les services, gérer leur administration pour que l'administration soit efficiente. Et le Parlement, s'il ne vote pas, qu'est-ce qu'il fera ? Mais il contrôlera. C'est la seconde grande mission du Parlement. Contrôler où va l'argent. Pourquoi dans les établissements publics, telle catégorie, l'égalité homme-femme ne marche pas ? Allez-y sur le terrain. Vous êtes des élus, vous dites toujours que vous êtes sur le terrain. Mais allez-y, en mission parlementaire, auditionnez les gens. Vous voyez l'affaire de la fédération de la ministre, la pauvre ministre, Oudéa Castéra. C'est une commission qui a fait, ou une enquête de, qui a fait sortir la problématique d'une rémunération trop haute. Les fédérations sportives sont financées par l'État, en partie. Et donc, contrôler. Il y a des centaines d'organismes, des centaines de services à contrôler. Le Parlement et les ministres peuvent agir en mieux gérant l'État et ne pas se contenter en permanence d'augmenter les impôts, de recruter des fonctionnaires ou des agents publics et de dire tout ira mieux comme ça parce que l'expérience montre que malheureusement tout ne va pas mieux.
Et oui, quand vous parliez tout à l'heure des problèmes d'importation et de la sécurité sanitaire, on a encore entendu un certain nombre d'agriculteurs dire « on nous oblige, nous, à ne plus utiliser de néonicotinoïdes, à ne plus cultiver de telle ou telle façon, mais quand on importe de l'étranger, pas des pays européens, mais de l'étranger, un certain nombre de choses, eh bien effectivement, si ça arrive du Brésil ou d'ailleurs, ils n'ont pas les mêmes obligations sanitaires qu'en France ». Ceci explique en partie cela.
Alors, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire, Hervé Causse, de simplifier ? On parle beaucoup, le président de la République, de simplification. Il faut simplifier. Mais bon, est-ce que finalement, est-ce que ça se fait ? Est-ce qu'on vérifie ? Parce qu'il y a beaucoup d'annonces, mais on vérifie jamais les annonces.
Oui, alors, c'est un thème extrêmement intéressant, très stimulant intellectuellement.
Mais on en entend parler depuis des années, quand même.
Ah bah écoutez, je me souviens de vœux de François Hollande, qui avait lourdement insisté sur la simplification. Mais tant que les politiques n'auront pas dit au peuple et ne seront pas élus sur un programme qui consistera à dire « nous n'allons pas voter beaucoup de lois, ne nous demandez pas des textes, il y en a trop », c'est-à-dire tant qu'ils ne prôneront pas l'abstinence et qu'ils ne se l'imposeront pas, eh bien, on n'aura pas de simplification. Attendez, on a voté des lois de simplification. Il faut regarder les lois de simplification. Les lois de simplification sont terriblement complexes. Donc, si vous voulez, c'est une norme en plus sous prétexte. Et puis, on n'arrête pas de voter. La simplification, je n'y crois pas. Ça fait 30 ans qu'on en parle. Et déjà, Pompidou, vous avez la phrase qu'on dit souvent. Mais grosso modo, depuis les années 90... ça va plus du tout. Ça va plus du tout, ni au plan européen, ni au plan français. On vote 30 ou 40% de textes qu'on ne devrait pas voter. On ne les supprimera pas. Ça supposerait que pendant des décennies, le Parlement...
Et souvent, il me semble, hein, c'est le néophyte qui parle là, par rapport aux juristes, que souvent on dit... Une fois qu'il y aura une loi, le problème sera réglé. Et on s'aperçoit que la loi ne règle rien.
Mais oui, mais parce que la loi, ce n'est qu'un bout de papier. Pour qu'elle soit appliquée, il faut que les agents qui reçoivent le texte et qui ont des obligations soient persuadés que s'ils ne l'appliquent pas, ils seront sanctionnés. Sanctionnés sur le plan administratif, sanctionnés sur le plan pénal, sanctionnés sur le plan civil. Or, tel n'est pas le cas. Et notamment, les dysfonctionnements de la justice font qu'il y a beaucoup de difficultés à faire appliquer les textes. Donc moi, je ne crois pas aux mesures de simplification. Je crois à un discours politique qui serait fondé sur uniquement... l'abstinence. Nous ne voterons désormais que les textes absolument nécessaires.
Alors, puisque vous parlez de textes, il y a un vote très attendu demain, une décision attendue demain, c'est celle du Conseil constitutionnel. Peut rebondir.
Ça ajoute un problème.
Fernand va le dire mieux que moi, mais en matière de sécurité et immigration, on doit être à la 20e loi en 20 ans.
Oh, facilement, oui.
Ouais, voilà.
Et le problème aussi...
Voilà un exemple.
Je rajouterais aussi une chose, c'est que, c'est pas aux juristes que je vais le dire, mais lorsqu'une loi est votée à l'Assemblée nationale et au Sénat et que c'est fait, il reste encore une étape, c'est la promulgation de la loi par le président de la République. Et des quelques fois, il le fait au compte-gouttes. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, demain, revenons à ce qui va se passer au Conseil constitutionnel. Si jamais la loi est détricotée en partie par le Conseil constitutionnel, ou s'il y a un certain nombre d'articles, comme on l'a dit la semaine dernière et les autres fois, c'est un certain nombre d'articles majeurs pour les Républicains est censuré ou sont censurés, alors là, je vous dis pas que, à nouveau, on va rajouter une manifestation aux manifestations déjà en cours. D'ailleurs, ça a commencé au début de la semaine. Il y a eu quelques rassemblements de la gauche, des écolos, pour dire on ne veut pas de cette loi sur l'immigration. Alors, vous rendez compte, quel climat ? C'est vraiment assez dur. Donc, Et puis, Conseil constitutionnel, on peut pas faire appel. Hein. C'est fait.
Le Conseil constitutionnel, il regarde les textes, il regarde la loi, et tous ceux qui lui font un procès politique se trompent, Hervé Causse. Qu'est-ce que vous en pensez?
Pas totalement, mais on en a déjà un peu discuté l'an dernier. C'est une instance quand même qui est plutôt juridictionnelle et qui statue en droit. Mais il est vrai que c'est une instance qui statue avec des gens qui ont, pour l'essentiel, une sensibilité politique plus qu'une sensibilité juridique.
Ils sont nommés par le président de la République.
Oui, président de la République, Sénat, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale. Mais c'est pas tellement leur nomination, c'est qu'il n'y a pas de déontologie politique. La déontologie politique, c'est que je nomme celui que j'ai envie de nommer. S'il est plutôt incompétent en droit, c'est pas grave, je le nomme quand même. Voilà, c'est l'esprit français. Et tout le monde est très content de ça. Et ça fait, voilà, vous nommez quelqu'un qui est pas bon, hein, voire qui est carrément mauvais. C'est pas exactement le cas, hein. Et ça fait la une de Paris Match. Tout le monde est content. Vous le voyez avec ses enfants, avec sa peluche,
quand même compétents.
Ah non, mais
ils sont entourés de
les magistrats.
On a au moins deux anciens premiers ministres. On a Laurent Fabius. On a Alain Juppé.
Au Conseil constitutionnel, on travaille pas. C'est les seuls juges de France qui ne rédigent pas leurs décisions. Les décisions du Conseil constitutionnel, il y a un staff impressionnant d'assistants, de super assistants, de fonctionnaires de haut niveau qui rédigent pour eux. Les magistrats à la Cour de cassation rédigent leurs arrêts. Les magistrats au Conseil d'État, mais eux, non. Ils sont dans la position de la reine d'Angleterre. On leur présente des trucs. Alors, ils décident l'orientation générale, hein. Donc.
Et pour les pêcheurs, les pauvres pêcheurs du golfe de Gascogne, c'est le Conseil d'État qui oblige à faire ce qui va se passer. C'est-à-dire que les 400 bateaux doivent rester à quai.
Il applique la loi. Ah, mais alors, sur le Conseil constitutionnel, l'institution est bigarrée, si vous voulez. Mais, le problème est pas tellement là. En général, quand même, ils essaient d'avoir une ligne juridique. Ça a été très contesté au moment de la période Covid, où on a dit le Conseil constitutionnel est en train d'enterrer les grandes libertés. Et donc il y a quelques juristes qui se sont émus. Moi, j'en faisais pas partie parce que j'ai plutôt le sentiment que le Covid c'était une parenthèse et que donc cette jurisprudence-là, on la regarderait avec beaucoup de distance quelques années après. Mais le Conseil constitutionnel ne fait pas que regarder, il censure la loi. Donc quand il y a les articles, ou parfois juste un alinéa, il annule, il les déclare inconstitutionnels, et donc ce ne sera même pas promulgué au JO.
En revanche, s'il y a une interruption volontaire de grossesse qui va passer au congrès de Versailles, parce que là c'est dans les tuyaux, à ce moment-là, le Conseil constitutionnel, lui, n'a rien à dire. Ça sera fait une fois pour toutes.
Exemple de ce que je disais, les OQTF... parce que là, la loi immigration met en cause ou traite en partie les OQTF. On fait une loi pour appliquer les OQTF. Mais on sait très bien que vous pouvez faire 150 000 lois.
Elle n'est pas appliquée, cette loi.
Non, mais les OQTF existent et les gens ont l'obligation de quitter le territoire et on ne les fait pas quitter le territoire. Est-ce que c'est un problème de loi ? Est-ce que c'est un problème de décret ? Mais non, c'est un problème de trouver, d'avoir le ministre qui donne l'ordre aux gendarmes, donc à ses administrations, aux gendarmes, à la police et aux magistrats, d'exécuter. Voilà ce qu'est le travail d'un ministre. Il doit exécuter. Et donc, on a l'exemple typique du droit qui ne sert à rien.
Merci Hervé Causse. Fernand, 30 secondes.
J'ouvre une parenthèse et je la referme parce qu'on parlait d'immigration. Il se passe quelque chose de difficile actuellement à Mayotte. On en a parlé au Parlement. Il y a un grand stade qui est à nouveau envahi d'immigrés en provenance de Madagascar et des Comores. Et le Premier ministre doit y aller prochainement. Donc
on
ça va très très mal sur place. Bon vol.
Merci, merci Fernand. Alexis, c'est l'heure de nous séparer, de rappeler que demain matin, on retrouve donc Hervé Chabot. Après-demain, ce sera Monseigneur Véteux. Et puis, on aura entre-temps, bien sûr, l'actualité régionale, le magazine, nos chroniqueurs. Demain, c'est l'économie.
Avec Gérard-Marie Henry, tout à fait. Et on parlera aussi de la situation agricole, d'ailleurs, en économie.
Après-demain, c'est le professeur Cohen qui parlera de questions d'actualité. Merci à tous. Dans quelques secondes, le Journal National. Merci à Elsa.
Merci
à toute l'équipe.
Merci, bonsoir.
Et on se retrouve demain, 18h10.